Sermon d'action de grâce pour la paix et de commémoration de la mort de Louis XVI. Prononcé à Paris, dans le Temple de l'Oratoire, le 26 juin 1814, par Jean Monod, l'un des pasteurs de l'Église réformée de Paris. Texte, Luc, chapitre 2, verset 14. Paix sur la terre. C'est un spectacle bien déplorable et bien honteux pour l'humanité que celui des guerres qui ensanglantent si souvent la terre que nous habitons. À voir les nations s'armer avec fureur les unes contre les autres, appliquer tous les efforts du génie et de la science à perfectionner l'art de la destruction, à les voir souvent, après quelques années de massacre, les suspendre pour entrer dans leurs limites, et sans en recueillir les fruits auxquels on prétendait, comme fatigués de carnage, se reposer jusqu'à ce que nous, occasion nouvelle, les rappelle au combat. Avoir enfin et la frivolité de la plupart des causes qui les excitent, et le peu d'avantages qui en résultent, et la grandeur des maux qu'ils entraînent, ne dirait-on pas que ce sont des espèces ennemies qui ne peuvent subsister ensemble et non des êtres formés d'une même nature, unis par tant de rapports et d'intérêts communs. Contre des nations sauvages qui ne connaissent que l'instinct des premiers besoins, chez lesquels aucune loi, nulle règle de mœurs ne comprime les passions, la force décide de tout. Mais qu'au milieu des lumières et des bienfaits de la civilisation, des hommes instruits à respecter l'humanité et qui ont pu comparer, par expérience, les maux de la guerre et ses avantages. Des hommes qui ont appris à connaître un Dieu de paix et de bonté. Des disciples d'une religion qui ne respire que la paix et la bienveillance. Que des chrétiens, enfin, s'abandonnent à de telles fureurs. Ah, n'est-ce pas, je le répète, un spectacle bien déplorable et bien honteux pour l'humanité? Était-ce pour cela, ô Père des hommes, que tu envoyas ton Fils leur prêcher la charité? Ange de l'Éternel, quand pour annoncer la religion de Jésus, vous faisiez retentir les airs de ces magnifiques paroles, « Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance entre les hommes. Prévoyez-vous les fruits qui recueilleraient de ce bienfait céleste? Quel était bien caractérisé, en effet, par ces paroles, la religion de Jésus-Christ? Déjà les prophètes avaient désigné son auteur par le beau nom de Prince de la Paix. Il l'avait peint comme celui qui devait changer les épées en noyaux et les hallebardes en serpes. La paix, comme si elle fût descendue du ciel pour lui servir de précurseur, la paix régnait dans le monde lorsqu'il y parut. Et soit que nous entendions les paroles des anges dans leur sens littéral, soit que, suivant un langage ordinaire aux orientaux, la paix désigne aussi tous les biens qui vont à sa suite, ce cri de joie était bien propre à solenniser la venue du Sauveur. Mais cette paix ne devait pas durer constamment, et les intelligences célestes semblaient exprimer encore par ces paroles un vœu bien digne d'elles, mais hélas, un vœu qui ne fut que trop rarement exaucé. Qu'il est doux, mes frères, de pouvoir répéter le cantique des anges en l'appliquant aux circonstances où nous nous trouvons. La terre gémissait sous une des guerres les plus longues et les plus désastreuses qui l'ait affligée. Combien de fois nous sommes venus, en commençant l'année, implorer dans ce temple les compassions de Dieu pour l'humanité, et nous avons vu le soleil terminer son cours en éclairant encore ces sanglantes scènes. Le feu de la guerre semblait ne se calmer par moments que pour se rallumer bientôt plus terrible. Il laissait respirer une contrée pour en embraser une autre. On ne pouvait prévoir où s'arrêterait l'incendie. Hélas, la paix paraissait comme bannie de cette terre infortunée. Personne ne voyait par où elle pourrait y rentrer. À peine osions-nous espérer qu'elle serait rendue à nos enfants. Que dis-je, à ceux que la guerre n'aurait pas dévorés. Et voilà que, tout à coup, lorsque les alarmes étaient à leur comble, Dieu a jeté du haut des cieux sur les humains un de ces regards qui sont, dit le psalmiste, la délivrance même. Cette voix puissante qui ordonna jadis que la lumière fût, cette même voix a dit « Paix sur la terre ». Et la terre a été en paix. Et en un instant, presque tous les points du globe ont répondu à ce cri de bénédiction. Tous les cœurs ont volé au-devant de cette heureuse nouvelle. Les passions mêmes ont paru se calmer. Et s'il reste encore quelque chose à faire pour achever ce grand ouvrage et rendre la paix universelle, telle est cependant l'ardeur avec laquelle on en désire l'accomplissement qu'il est permis de l'espérer. Puisse-t-il, scellé par les hommes, être ratifié dans le ciel. Puissent les armes tomber bientôt de toutes les mains qui les retiennent encore, et la fête de paix être vraiment la fête de l'univers. Paix sur la terre. Oh, qu'il retentisse dans tous les cœurs ce cri qui réjouit également la patrie, l'humanité, la religion. Paix sur la terre. Ah, ce cantique par lequel fut célébré le plus grand des bienfaits n'a rien de trop élevé, de trop solennel pour les merveilles dont nous sommes témoins. Combien de nations s'unissent pour le répéter, et à ce doux nom de paix croient voir cesser tous les maux, renaître tous les biens, s'ouvrir les plus belles espérances et une nouvelle époque commencer pour le genre humain. Paix sur la terre. Ce ne sont plus des victoires sanglantes qu'on nous ordonne de célébrer dans un temple de paix, au milieu de familles qu'elles plongent dans le deuil. C'est un prince ami de la paix. C'est un roi vertueux et chrétien. C'est le père de ces peuples qui vient à eux, ramené par la justice, portant pour sceptre un rameau d'olivier, qui nous invite à bénir avec lui, Dieu qui nous rend la paix et à faire monter vers le ciel le vœu de tous les gens de bien, que cette paix réjouisse longtemps la terre et s'affermisse sur la base de l'union des cœurs et de la piété. Entrez dans son temple avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Priez pour la paix de Jérusalem. C'est l'Éternel qui donne du repos à son peuple. Sa bonté demeure à toujours. Célébrez-le, bénissez son nom. Première partie. Si je ne parlais ici qu'au nom de l'humanité, et seulement pour vous inviter à vous réjouir du bonheur commun, je vous peindrais, dans les tableaux opposés, les maux de guerre et les bénédictions de la paix. Mais que ferais-je par ces descriptions faciles et rebattues que vous répétez inutilement ce que vos cœurs vous ont dit encore mieux? Et qui pourrait, sans gémir, voir un fléau cruel affliger ses semblables, en fût-il éloigné? N'en eût-il rien à craindre pour lui? Put-il même en retirer quelques avantages? Ou, si le cœur humain se familiarise à la longue avec le spectacle des souffrances d'autrui, s'il était des hommes que de tels maux ne touchasse que faiblement, s'il en était que les calculs d'un vil égoïsme rendissent à peu près indifférents sur des calamités qui ne les frappent pas immédiatement, s'il fallait enfin qu'ils les vissent près et eux-mêmes, eh bien, ils ont reçu cette terrible leçon. Nous avons vu la guerre exercer sur nos provinces toutes ses fureurs. Nous l'avons vu s'avancer en imprimant partout ses pas ensanglantés, jusqu'aux portes de cette capitale. Elle est toujours présente à nos esprits, cette journée effroyable. Ils retentissent encore à nos oreilles et jusqu'au fond de nos cœurs, ces tonnerres dont chaque coup portait avec lui la mort et la douleur. Ils ne sortiront pas de notre mémoire ces jours de trouble et d'angoisse où le courage et la valeur éprouvés de nos guerriers ne suffisaient plus pour nous rassurer contre des dangers toujours croissants, où l'on nous ballottait entre les illusions d'une fausse sécurité et de chimériques terreurs, où nous savions ce que nous pouvions craindre, mais nous n'osions pas encore pressentir ce que nous pouvions espérer. Et si ces jours nous ont paru si longs et si pénibles, peignez-vous le sort de ces contrées déplorables sur lesquelles ce fléau prolongeait sans cesse ou renouvelait ses rigueurs, qui chaque année, quand le soleil revenait annoncer les bienfaits du Créateur, voyait l'ange de la destruction qui revenait en même temps livrer la terre aux fureurs de l'homme. Voyez depuis 22 années la guerre et tous les maux qui l'accompagnent, parcourant, désolant successivement tous les points de notre malheureuse Europe, que dis-je, portant le fer et le feu dans toutes les parties du monde, arrachant des nations simples et paisibles au repos que leur position, leurs habitudes, leur modération semblaient devoir leur assurer, que la justice et l'humanité réclamaient pour elles. Rappelez-vous ces calamités dont l'histoire des âges offre à peine quelques exemples, ces excès horribles qui semblaient que la civilisation et le christianisme eussent banni pour toujours et qu'il était réservé au siècle qu'on appelle celui de la philosophie et de l'humanité de renouveler. N'oubliez pas quel fut le foyer d'où partirent le plus souvent ces foudres destructeurs. Et sans doute vos cœurs se sentiront comme soulagés en pensant que vous cessez d'être ou les victimes ou les auteurs de tant d'infortunes. Et vous contemplerez avec délice l'image de la paix avec le riant cortège qui l'accompagne et vous apprendrez à détester la guerre. Vous sentirez que quelque prétexte qu'il allume, quelque nécessité qui puisse quelquefois l'autoriser, quoi qu'on dise, pour lui attribuer je ne sais quelles utilités, le cœur se soulève contre ces durs sophismes. Que la guerre est toujours une calamité, pour le puissant comme pour le faible, pour celui qui triomphe comme pour celui qui succombe, pour les États qu'elle épuise comme pour les particuliers qu'elle expose à tant de maux, pour les nations éloignées même comme pour celles qui la souffrent, parce qu'elles rompt des liens que la nature et l'intérêt commun établissent entre les peuples, parce qu'elles portent et répand au loin des germes funestes qui peuvent enfanter des divisions nouvelles. Aussi, voyez comment, aussitôt qu'elle cesse, tous les cœurs respirent, comme la nouvelle de la paix vole de bouche en bouche. Avec quel empressement des hommes, heureux de n'être plus forcés de se traiter en ennemis, courent au-devant les uns des autres, se hâtent de rétablir ces échanges d'industrie, de lumière, de jouissance. L'hospitalité reprend ses droits, nations se mêlent, se confondent, la joie rentre dans les familles avec les époux, les enfants que la guerre avait éloignés, l'abondance rouvre ses canaux. Chez le pauvre comme chez le riche, dans les campagnes comme dans les villes, dans les ateliers, dans les palais, partout, on célèbre par des fêtes le retour de la concorde. Et l'allégresse universelle atteste que la paix fait le bonheur de l'humanité. Mais, chrétiens, nous borner à des réflexions de ce genre, ce ne serait pas répondre à l'esprit de notre ministère et au but de cette convocation. Quand le Père de la patrie nous invite à célébrer la paix dans les temples, c'est pour en faire hommage au Dieu de paix. Lui-même l'en bénit avec toute sa maison, et c'est pour nous un nouveau sujet de satisfaction. C'est une joie pour la piété de l'avoir encouragée par d'augustes exemples. Ce n'est pas à des chrétiens qu'il faut rappeler que le monde est dans les mains d'une providence qui dirige tout ce qui s'y passe. Nous avons appris de nos livres à reconnaître partout cette main suprême. Là, Dieu nous est représenté, tantôt comme un monarque qui gouverne son empire, tantôt comme un père qui conduit également ses enfants par des bienfaits et par des châtiments. Tout ce qui leur arrive, bien, maux, santé, maladie, bénédiction ou fléau de la nature, la paix ou la guerre, tout vient de Dieu. Tout est ordonné par une souveraine sagesse. Il ne tombe pas un oiseau du ciel, ni un cheveu de notre tête, sans sa permission. Belle manière d'envisager les événements. Idée, mes frères, non seulement conforme à la vérité, mais bien propre à rectifier nos jugements, à rendre nos plaisirs plus purs et les maux plus faciles à supporter. Quand je souffre, si je puis me dire que ce mal me vient d'un Père qui m'aime et qui ne cesse point de vouloir mon bonheur, combien cette pensée ne l'allégerait-elle pas? Et si la joie succède à la douleur, ah, n'est-ce pas un redoublement de félicité que de savoir à qui je puis rapporter ma reconnaissance? Aussi, voyez quelles belles conséquences les écrivains sacrés tirent de cette persuasion, et comme elle éclaircit, à leurs yeux, les destinées de cet univers. Souvent les dispensations de Dieu nous étonnent. Nous avons peine à comprendre qu'il semble abandonner le monde au triomphe de l'iniquité. Mais ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Si cette haute sagesse nous paraît se couvrir de voiles, si sa justice se manifeste lentement au gré de notre impatience, attendez-le cependant, nous disent-ils, car il ne manquera pas de venir et il ne tardera pas. Que faisions-nous, aveugles, mortels, quand nous accusions le ciel des maux qui laissaient peser sur l'humanité, tandis que les hommes ensanglantaient la terre par leur folle passion, que nous osions à peine entrevoir un terme à nos douleurs, que nous offensions peut-être la Providence par nos doutes et par nos murmures. Elle ne cessait pas, cette Providence, de veiller sur nous avec un soin paternel, et malgré nos plaintes ingrates. Et comme le vent qui souffle près de la terre est quelquefois différent de celui qui, dans les parties élevées de l'air, amène ou chasse les tempêtes, ainsi, tandis qu'ici-bas les hommes s'abandonnaient à l'impulsion des événements ou poursuivaient leurs projets sans en prévoir l'issue, dans le ciel, Dieu qui travaille sans cesse, comme dit le Sauveur, préparait son œuvre en silence. Il laissait les fléaux grossir et se rapprocher de ceux qui, jusqu'alors préservés, devaient aussi les éprouver à leur tour. Mais sous la masse même de ces maux se formait, se développait en secret le germe de la délivrance. Et quand il a été mûr, il a éclaté tout à coup. L'édifice de l'orgueil s'est écroulé, s'est évanoui comme un songe, et la justice, tenant par la main la paix et l'espérance, a paru remonter sur le trône de l'univers. Ainsi s'est vérifiée à la lettre cette parole du psalmiste : les pleurs sont le soir chez nous, et le matin, il y a des chants de réjouissance. Non, jamais nous n'oublierons ce que nous avons vu, ce que nous avons senti dans ces deux journées où nous passâmes si rapidement de l'excès des alarmes au comble de la joie, dont l'une ne faisait entendre que des cris de guerre et de désolation, l'autre retentit des accents de la délivrance et de paix. L'une nous montrait sous nos murs des ennemis formidables et trop justement irrités. L'autre nous fit voir, non pas comme autrefois devant Jérusalem, une armée détruite par l'ange de l'Éternel, mais ces mêmes ennemis désarmés par leur générosité, et sans doute aussi par cette puissance suprême qui tient les cœurs des rois dans sa main, entrant comme des libérateurs et comme des précurseurs de ces autres anges de la paix qui devaient sceller cette paix et en assurer la durée. Non, jamais la providence ne s'est manifestée aux humains par des coups plus grands, plus inopinés, plus heureux. L'impiété même a paru s'en étonner. Le murmure a été forcé de se taire. L'indifférence et l'ingratitude ont été confondues et toutes les voix se réunissaient pour dire « Ceci a été fait par l'Éternel et c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. » Gloire soit donc à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Venez, peuple, venez contempler les faits de l'Éternel et voyez quel prodige il a opéré sur la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités du monde. Il rompt les arcs, il brise les hallebardes, brûle les chariots. Cessez, a-t-il dit, et connaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi toutes les nations, je serai célébré par toute la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Mais ce qu'il faut surtout admirer dans le gouvernement de la Providence, c'est qu'il tend toujours, en dernière fin, au triomphe de l'ordre moral et de la justice. Ce sont ces rapports éternels qu'elle a établis entre la vertu et le bonheur. Rapports bien plus constants encore pour les peuples que pour les individus. Si l'homme qui ne fait que commencer ici-bas ne reçoit pas toujours son salaire dans cette première portion de son existence, rarement une nation est-elle affligée qu'elle ne puisse trouver en elle-même l'origine de ces maux. Et par le même principe, c'est d'elle aussi qu'il dépend de faire valoir ou de repousser les secours que Dieu lui offre pour sa délivrance. La justice seule élève et affermit une nation, mais l'iniquité est la ruine des peuples. Cette vérité, écrite dans toutes les pages de l'histoire, reçut-elle jamais une démonstration plus éclatante qu'à l'époque où nous avons vécu? Et dans l'espace de 25 années, n'avons-nous pas vu comme rassembler en un tableau tous les excès, toutes les erreurs, tous les maux, toutes les leçons et l'expérience de tous les temps? Ce siècle, trop vanté, a vu ces dernières périodes souillées par un débordement de crimes et de calamités. Les principes les plus sacrés ont été méconnus. La justice a été outragée et la paix, la prospérité ont disparu avec elle. La France a versé le sang de ses citoyens, de ses princes, de son roi, et dès lors, comme un homme poursuivi par le souvenir d'un crime, elle n'a plus connu le repos. On l'a vu en proie à une agitation funeste, se livrant à toutes les séductions, passant des excès de la licence et de l'anarchie à ceux de servitude. Tour à tour, déchirant ses entrailles et portant au dehors son inquiète activité, admirée, redoutée des autres nations, tandis qu'elle gémissait sous le poids de sa propre gloire, cachant sous des lauriers, mais ne pouvant guérir, le mal qui la consumait. Il fallait que le forfait qui pesait sur elle fût expié. Il fallait que la justice éternelle fût satisfaite, et que les peuples apprissent enfin, par de grandes et terribles leçons, ce que valent cette gloire qui ne s'élève que sur des monceaux de ruines, et ces conquêtes qui font le malheur de l'humanité, et que les hommes semblent encourager par leurs louanges insensées, et ces dangereuses théories qui, en promettant au peuple le bonheur, les précipitent dans les plus affreux désordres. Maintenant, les temps sont accomplis. Jour de la miséricorde est arrivé. Une voix céleste s'est fait entendre. Consolez, consolez mon peuple. Parlez à Jérusalem selon son cœur. Dites-lui que l'Éternel a mis un terme à ses souffrances et a fait cesser la peine de son iniquité. Dieu a frappé un de ses grands coups qui n'appartiennent qu'à lui, et tout a changé de face. Un nouveau jour s'est levé pour nous, et la France a été réconciliée en même temps avec les autres nations, avec elle-même, avec le ciel. Alors se sont réveillés des souvenirs que le temps avait affaiblis peut-être, mais qu'il ne pouvait jamais effacer, qui doivent subsister éternellement pour nous préserver de retomber jamais dans les mêmes erreurs. Nous sommes revenus, par pensée, sur ces temps d'un funeste vertige. L'intervalle qui nous en séparait s'est comme anéanti devant nous, et notre premier vœu, notre premier besoin a été de rendre à d'augustes victimes des hommages expiatoires que nous avions été contraints de renfermer au fond de nos cœurs. Ô forfait qu'il faut avoir vu pour les croire possibles, ô jour désastreux, ô l'audace de quelques hommes pervers, et glaçait de terreur le grand nombre des âmes honnêtes, et répandait sur la France épouvantée la désolation et le deuil. Où la mort était devenue le prix de l'innocence, où la demeure réservée aux coupables fut souvent l'asile de ma vertu, du calme et de la sérénité. Ne craignons pas, mes frères, de mêler aujourd'hui ces images douloureuses à celles de la joie, puisque ce n'est que par nos regrets et notre repentance que nous pouvons mériter le retour des faveurs célestes. Et pourrions-nous jamais les bannir de notre mémoire? Ne se présenterait-elle pas à nous au milieu même de nos fêtes? Oui, pleurons ce roi que nous pourrons jamais pleurer assez, ce roi dont l'unique tort peut-être fut de trop bien penser de l'humanité, qui fut, dans le relâchement des mœurs et des principes, un modèle de pureté, de modestie, d'une piété douce et sincère, qui sur le trône fut le meilleur des hommes, et sur l'échafaud en fut le plus grand, qui fit voir ce qu'est un chrétien dans les souffrances, et qui mourut comme Jésus, en pardonnant, en bénissant, en prononçant la grâce de ses assassins, en demandant au ciel que son sacrifice servît, comme celui du Sauveur, à désarmer la justice suprême en faveur de son peuple. Hélas, il ne prévoyait pas ce qui devait suivre. Le crime appelle le crime. Pleurons, et cette reine qui partagea les infortunes de son époux avec plus de grandeur encore qu'elle n'avait partagé sa gloire. Et cette princesse qui parut sur la terre comme un ange, que le ciel avait prêté aux hommes, mais que les hommes ne méritaient pas de posséder. et cet enfant, déplorable exemple de la réunion des grandeurs et des misères humaines, pour qui le trône, avant qu'il puisse y monter, se change en tombeau, et ce prince, dans lequel l'attentat le plus inouï frappe, pour ainsi dire, d'un seul coup, toute une race de héros. Ah ! Si le sang de ces grandes victimes, si celui de tant de citoyens, a provoqué de sévères châtiments du ciel, ces châtiments à leur tour ont satisfait sa justice. Dieu ne punit pas toujours, il ne frappe que pour corriger, et c'est à présent que nous croyons le voir apaisé, quand il nous permet de répandre librement nos douleurs, surtout quand il nous présente les moyens de réparer nos torts et nous envoie les gages de sa clémence les plus précieux, les plus authentiques. Ô impénétrable et merveilleuse dispensation de la Providence, la justice a triomphé de la puissance. Les choses fortes, comme on le disait de l'Évangile, ont été vaincues par les faibles. Ces princes, dont il y a peu de temps encore, nous osions plus espérer le retour, un moment nous les a rendus. Une batterie égarée les avait repoussés de son sein. Le premier cri de cette patrie, rendue à elle-même, est de les redemander. Ils reviennent, joignant à tant de titres qu'ils avaient, à l'effection de leur peuple, tous ceux qu'ajoute une longue infortune, noblement supportée, et les vertus qu'elle inspire. L'antique trône des Lys se relève. Louis règne encore dans un autre lui-même. Les ombres de nos martyrs sont apaisées. La paix redescend des cieux, et comme la France avait entraîné dans son tourbillon et bouleversé toute l'Europe, aussitôt que le calme rentre dans son sein, toutes les nations respirent. L'ordre renaît. Les souverains dépouillés sont rappelés dans leurs états. Les antiques institutions se rétablissent. Ô Providence, quelle leçon tu nous donnes, au peuple et au roi. Pour moi, chrétien, je me réjouis avec tous les vrais amis de la patrie, de voir le sceptre rentrer dans les mains qui seules pouvaient le porter légitimement. Je sais combien sont vives et durables ces affections qui lient une nation généreuse à la famille de ses rois. Je fonde le plus doux espoir sur des vertus éprouvées et perfectionnées à la grande école de l'adversité. Mais une pensée plus haute encore m'attache et suffirait seule pour m'attacher à la cause de nos princes. C'est que cette cause est celle de la justice, de l'ordre et la morale. Ce qui me ravit, ce qui me pénètre d'admiration et de reconnaissance, ce qui me rassure sur les destinées humaines, c'est de voir confirmer, par un si grand exemple, qu'elles ne sont point le jouet d'un aveugle hasard, qu'une protection invisible accompagne toujours la vertu, que la justice, alors même qu'elle paraît faible, exilée, opprimée, porte toujours en elle-même une force secrète et irrésistible, qui, plus puissante que celle des hommes, agit à leur insu, déjoue leurs projets, mine sourdement tous les obstacles et s'avance d'un pas lent mais assuré vers le terme inévitable où le crime et l'innocence trouvent leur salaire. À cette idée, je m'humilie devant cette sagesse profonde que nous osons souvent méconnaître. J'adore ces décrets et encouragé par tous les prodiges qu'elle a opérés pour les hommes, j'ose porter plus loin mes espérances et lui demander qu'elle fasse régner longtemps cette paix sur la terre. C'est à considérer les paroles de notre texte comme un vœu pour l'avenir, que nous destinons la suite de ce discours. Seconde partie. Mais pourquoi ce vœu, qui est celui de tous les cœurs honnêtes, semble-t-il si difficile à réaliser? Pourquoi les projets de ces amis de l'humanité, qui se plurent à méditer sur les moyens de perpétuer la paix entre les nations, n'ont-ils été regardés comme les rêves d'âmes sensibles? Il était dans votre cœur, ce vœu. Vous osâtes concevoir cette espérance au roi, dont le nom, devenu comme celui de la bonté même, est béni d'âge en âge, se répète avec attendrissement. Depuis le palais de vos successeurs, jusque dans la chaumière du pauvre. Sans doute, mes frères, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des passions. Et ces passions enfanteront des querelles. Cependant, quelque incontestable que soit cette triste vérité, elle n'empêche pas que ce vœu, paix sur la terre, ne soit raisonnable, humain, digne d'être répété par tous les gens de bien. Et jamais il ne fut plus légitime que dans ce moment, plus profondément empreint dans les cœurs. Jamais on n'a dû mieux sentir les malheurs de la guerre et le besoin du repos. Jamais, peut-être, la Providence n'offrit à l'humanité une plus belle occasion de poser les fondements d'une longue paix. Et quoi ? Les lumières de l'expérience seront-elles toujours perdues pour les hommes ? Sera-t-il toujours inutile de rappeler au maître du monde l'aveu qu'un monarque célèbre faisait en mourant et le conseil qu'il donnait à son successeur ? J'ai trop aimé la guerre, ne m'imitez point en cela. Et de redire au peuple qu'ils sont faits pour s'aimer et non pour se détruire. Ne désespérons pas à ce point de l'humanité. Du moins, plus en pénétrera les hommes de cet esprit de bienveillance, et plus en éloignera les occasions de guerre, plus ils s'efforceront d'en adoucir les rigueurs. Il n'est donc pas inutile de les exhorter à ces sentiments, de parler même devant un petit troupeau de ce qui peut favoriser l'harmonie entre les nations. Ce sont des semences précieuses que chacun peut répandre autour de soi. Et peut-être qu'avec des efforts réunis, nous les verrons se multiplier et produire un jour quelques fruits. Disons-le donc, et sans vouloir nous arroger le droit présomptueux de dicter des conseils à ceux que la Providence a placés au-dessus de nous, les mêmes causes divisent les États et les individus. Ce qui maintient la paix à l'intérieur de la société la fera régner au dehors. Et pourquoi la politique aurait-elle une morale à part ? Ou plutôt, pourquoi semblerait-elle regarder la morale comme étrangère à ses conseils ? Pourquoi ce qui, d'homme à homme, s'appelle injustice, violence, usurpation, changerait-il de nom dès que des souverains le commandent et que des armées l'exécutent ? Pourquoi, si je dépouille mon voisin, plus faible que moi, serais-je l'objet du juste mépris des hommes ? Et les hommes n'auraient-ils que des louanges à prodiguer à celui qui dépouille des rois, s'empare de leur province et bouleverse tout autour de lui ? Pourquoi, en un mot, les chefs des nations se croiraient-ils permises, lorsqu'ils agissent au nom de leur peuple, les mêmes choses qu'ils repousseraient comme des crimes s'ils traitaient entre eux de leurs intérêts particuliers ? Erreur déplorable et qui fait le malheur du monde. Erreur d'autant plus funeste que l'exemple en est contagieux et que souvent c'est d'eux-mêmes qui portent dans le cœur des sentiments plus justes, se trouvent comme forcés d'adopter ces principes d'iniquité. Ah, cette maxime du sage, l'intégrité des hommes droits les conduit, est faite pour les princes comme pour les citoyens. Elle devait être gravée sur la porte des conseils, comme dans le cœur de tous les hommes. La justice, cette autre parole de Salomon, est bien digne d'être répétée. La justice élève les nations, mais c'est l'iniquité qui cause leur perte. Quelle serait donc la nation? Je ne dis pas qu'il n'aurait jamais de guerre à soutenir. Il en est que la modération et la sagesse ne peuvent prévenir. Il en est où la justice même et l'humanité arment nos mains pour une défense légitime. Mais quelle serait la nation qui s'y verrait le plus rarement exposée? Ce serait celle dont les chefs mettraient leur gloire dans le bonheur des peuples plus que dans l'étendue de leur domaine, et ne prodiguerait pas le sang des citoyens pour un vain et souvent dangereux agrandissement. Ce serait celle qui, toujours guidée par la modération, fidèle à ses engagements, n'abuserait jamais ni de sa puissance pour opprimer des États plus faibles, ni de ses victoires pour dicter ses paix humiliantes qui ne durent pas plus que la nécessité qui les impose, qui établirait son influence non sur la crainte qu'elle répandrait autour d'elle, mais sur la confiance qu'elle saurait inspirer à toutes les autres, qui aurait pour maxime non pas tout ce qui est utile en politique et juste en morale, mais que tout ce qui est juste est utile et sage. Ce serait celle qui n'ambitionnerait que d'accroître cette force intérieure qui résulte des bonnes lois, d'une liberté sage, d'institutions utiles et de perfectionnement de tout genre. Heureux effet d'un gouvernement paternel qui, chéri des citoyens, trouve en eux, au besoin, des défenseurs prêts à s'immoler pour lui. Ce serait, en un mot, la nation où ses sentiments d'équité, de droiture, de modération régnerait dans toutes les âmes parce qu'il formerait l'esprit public, dirigerait les conseils du souverain comme les affaires des particuliers, parce que la politique, éclairée alors par la morale, simple et facile comme elle, tendrait également à affermir l'État au-dedans et à inspirer l'estime et la confiance au-dehors. Vous le voyez donc, mes frères, les leçons que nous vous donnons dans ce temple, les réflexions que nous faisons naître en vous, les sentiments que nous cherchons à exciter dans vos cœurs, n'ont pas pour but seulement votre bonheur personnel, mais ils serviront encore au repos, à la prospérité d'une patrie qui vous est chère. Ils peuvent étendre même plus loin leur influence. Et de même que ces sommes modiques que chacun consacre au soulagement des pauvres produisent par leur réunion d'abondants secours, ainsi tout homme qui paye à l'humanité sa part de sentiments et de procédés vertueux contribue à l'harmonie universelle. Que ce motif est noble et digne d'être offert à des âmes généreuses. Comme il relève encore l'importance de cette équité sévère, de cette exacte probité qui, respectant toujours les droits des autres, les engage à respecter les siens. Cette aimable charité qui achève l'œuvre de la justice et fait trouver aux hommes leur propre bien dans celui qu'ils font à leurs semblables. « Qui est-ce qui vous fera du mal ?» disait un apôtre. « Si ne vous appliquez qu'à faire du bien. Mais, chrétien, ce qui doit imprimer ces sentiments dans les cœurs et les faire dominer par-dessus les combinaisons de l'intérêt et les espérances de l'ambition, c'est la religion. Et la morale publique, non moins que celle des particuliers, a besoin de cette seule base solide de toute morale. Que la religion inspire les conducteurs des États, et ils se diront que, ministres et représentants de la Providence sur la terre, ils ne peuvent espérer de succès qu'en marchant, pour ainsi dire, avec elle, et en prenant pour modèle son incorruptible justice, qui se pénètre des leçons de Jésus, et ils dédaigneront ses petits intérêts, aliments de guerre, les satisfactions de vaine gloire. Ils connaîtront la dignité de la nature humaine et ils sentiront qu'il est plus beau de remplir la terre de leurs bienfaits que du bruit de leurs exploits. Qu'ils viennent dans les temples adorer le Dieu de bonté, et pourront-ils ensuite, de sang-froid, envoyer ses enfants à la mort? Que la religion règne chez tous les hommes, et les hommes respecteront les uns dans les autres l'image du Père commun. Ils verront en chacun de ses enfants un être créé, comme eux, pour un but infiniment noble, pour un bonheur éternel, dont tous doivent se faciliter mutuellement la possession. Ici, mes frères, j'en appelle à vous-même. J'en appelle aux hommes les plus froids pour la piété. Lorsque tant de voix se réunissaient pour rappeler Louis XVIII au trône de ses pères, n'entendait-on pas sortir de toutes les bouches cet éloge? C'est un prince religieux. Et par là, ne voulait-on pas dire, ce sera un roi pacifique, juste, modéré, fidèle à ses promesses, ami de son peuple et de l'humanité? Et en effet, qu'est-ce qui nous inspire le plus de confiance dans la justice d'un souverain, dans la probité de ses ministres, dans l'équité des magistrats, dans les vertus de tous les citoyens, si ce n'est la connaissance de leurs sentiments religieux? Je vous le demande encore, qui n'a pas été touché du spectacle qu'offraient parmi nous ces soldats étrangers, lorsqu'ils se rassemblaient sous les yeux de leur monarque et de leur chef, pour adorer Dieu dans nos temples ou sur les places publiques? Cette croix que quelques-uns portaient sur leurs vêtements ne nous semblait-elle pas annoncer que leur religion sanctifiait leurs valeurs et que dans les disciples du même Sauveur nous allions retrouver des frères? Et si l'on nous parle d'un peuple où la religion est en honneur, où l'on s'occupe par toutes sortes de travaux et de sacrifices à en propager les bienfaits, à les communiquer à des nations éloignées et même ennemies, n'éprouvons-nous pas tous une sorte de vénération pour de si nobles efforts? N'y voyons-nous pas de justes motifs d'espérer que de tels sentiments resserreront les liens de l'humanité? Oui, mes frères, c'est à la religion qu'il appartient de lier les peuples avec les peuples, les hommes avec les hommes, les citoyens avec leur patrie, la terre avec le ciel. Ah, dans les malheurs qui affligeaient l'humanité, je m'attachais à une pensée qui me consolait et que je ne puis abandonner. Comme ces orages qui purifient l'air en l'agitant, comme ces torrents furieux qui couvrent les terres et les ravagent, mais qui laisse en se retirant un limon qui les fertilise. J'aime à penser que les tempêtes par lesquelles la Providence a permis que le monde fût bouleversé étaient, dans ses conseils admirables, un moyen pour préparer la régénération de l'homme, et que, quand les vents seront entièrement apaisés, quand les torrents seront rentrés de leur cours, alors il fera servir à son instruction, au profit de la religion et de la vertu, les leçons d'une terrible mais salutaire expérience. Il vient peut-être le moment où les hommes, lassés de leur longue et sanglante agitation, se reposeront à l'ombre de la religion, de la paix et des mœurs, où les princes ne verront dans leur pouvoir que des moyens qui leur furent confiés par le ciel pour rendre les peuples heureux, où les peuples eux-mêmes chercheront ce bonheur dans le maintien de l'ordre, dans l'obéissance aux lois, dans le perfectionnement progressif des arts et des lumières, dans l'exercice de toutes les vertus publiques et privées, où les États, se donnant une main amie, rivaux seulement de vertu et d'activité, présenteront aux dieux de l'univers le spectacle de la fraternité des nations. Heureux effet de concorde et de la religion, sublime destination de l'humanité, ne seriez-vous qu'une belle illusion? Du moins, elle est douce, elle est consolante, elle encourage au bien. Oh, puissent les gouvernements et les peuples travailler par un concert mutuel à réparer leurs maux, à éteindre de plus en plus tous les germes de dissension et de guerre. Puissent les gouvernements et les peuples désabusés de l'esprit de conquête et de la dangereuse manie des innovations ne faire guère qu'aux vices et à l'erreur, les vrais ennemis de la société, et mériter que la Providence jette encore des regards de bénédiction sur cet univers. Conclusion. Mais serions-nous assez malheureux pour méconnaître ses bontés paternelles? L'Éternel a fait son œuvre, c'est aux hommes à faire la leur. Cette œuvre est grande, admirable. Ah, si la nôtre y répondait, si la reconnaissance égalait le bienfait, si nous faisions pour Dieu autant que Dieu pour nous, quelle heureuse destinée s'ouvrirait à nos espérances. Que de bien pourrait sortir des maux même que nous avons souffert. Que de gâches de notre bonheur futur la Providence nous met dans les mains, si nous savions tous y contribuer. J'ose vous appeler la première à cette œuvre sainte, ombre auguste et vénérée du meilleur et du plus malheureux des rois. Du haut des cieux, vous veillerez encore sur ces François que vous aimiez. Vous régnerez sur nous par votre souvenir, par nos regrets, par nos remords, par vos dernières leçons, par cet écrit admirable où votre belle âme respire pour l'instruction de vos successeurs et pour la consolation de votre peuple. Oui, vous nous l'avez dit, cet écrit sera votre guide, ces sentiments seront les vôtres. Ô vous qui gémissez d'occuper la place de celui dont vous auriez voulu rester toujours le plus fidèle sujet. La justice, la piété, la sagesse seront les appuis de votre trône. La paix, fille de la justice, en sera l'ornement. Notre prospérité sera votre plus chère ambition. Notre repos fera votre gloire. Et puissiez-vous jouir, jusque dans l'âge le plus avancé, des faveurs du ciel et des bénédictions des peuples. Prince qui entourait le trône de notre roi, qui seconderait ses travaux, qui vous associerait à ses vertus, puissiez-vous longtemps partager son bonheur, comme vous partagerez notre amour et nos vœux. Brave guerrier, quand vous déposez le glaive des combats, vous ne cessez point d'être les soutiens de l'État et du trône. En vous reposant sur vos lauriers, vous ferez encore respecter la France par le souvenir de vos exploits. Votre exemple lui préparera une génération nouvelle de défenseurs, et cette voix de l'honneur qui vous guida dans les hasards ne vous trouvera pas moins sensible quand elle vous parlera au nom de la justice, de l'humanité, de la patrie. Ministre de la Religion, pour nous, nos combats ne sont point finis. Nous avons à soutenir une guerre qui n'admet jamais de paix ni de trêve. Mais nos victoires ne sont point sanglantes. Les conquêtes auxquelles nous aspirons ne tournent qu'au bien de l'humanité. armons-nous donc d'un nouveau courage. Ministres de tous les cultes, marchons sous la même bannière, sous celle du Maître que nous révérons également, pour combattre nos ennemis communs, le vice et l'impiété. Et c'est ainsi que nous concourrons à consolider la paix entre les nations, dans l'État, dans la société, dans les familles, dans les consciences. Fidèles de cette Église, non, elles ne se relèveront plus ces barrières qui séparaient jadis des enfants d'une même patrie, des disciples d'un même Sauveur. Ces droits que la politique peut être et l'esprit du siècle nous avait procurés, aujourd'hui c'est la religion même, c'est l'esprit du vrai christianisme qui nous les garantit. Rendons-en grâce au Père des Lumières. Révérons, chérissons le Prince auquel il inspire ses sages pensées. Montrons-lui qu'il n'aura point de sujet plus fidèle que nous, la patrie, point de meilleur citoyen. Jésus-Christ, point de plus sincère adorateur. Détruisons toutes les préventions, s'il en existe encore, et qu'il n'y ait plus entre les cultes que l'émulation des vertus. Père et Mère, qui plus que vous a été soulagé par ce cri de paix, et quand on est venu vous dire que vos enfants ne seraient plus arrachés de vos bras, ah, bénissez Dieu qui vous les a rendus. Empressez-vous de les lui consacrer par une éducation chrétienne qui en fera des citoyens utiles, l'ornement de la société, la joie de leur famille, l'édification de l'Église. Citoyens de tout ordre, de toute condition, de tout âge, quelle a été l'origine de nos malheurs? Vous le savez tous. La première cause en fut le relâchement des mœurs, l'oubli de la religion, les progrès du luxe et de la vanité, la passion toujours croissante des plaisirs et des richesses. Quels sont les plus grands maux qu'ait produit un gouvernement oppresseur? C'est d'affaiblir les liens de la morale, d'isoler les hommes, de les concentrer dans le sentiment de l'intérêt personnel, d'arrêter les pensées généreuses et les nobles élans de l'esprit public, du patriotisme. Quels seront donc les moyens de rappeler parmi nous la prospérité? Ah, elle ne peut renaître qu'avec les vertus qui nous en rendront dignes. Il n'y a de paix que pour les âmes qui sont en paix avec elles-mêmes. Il n'y a de liberté que pour des hommes qui ne se laissent point asservir par les passions. Il n'y a de patrie que pour des citoyens qui ne connaissent rien de plus cher que la patrie et qui sont toujours prêts à lui sacrifier leurs opinions, leurs préventions, leurs ressentiments, leurs intérêts particuliers. Disons-le donc encore, l'œuvre de la Providence serait insuffisante sans notre concours. Tous les efforts d'une autorité paternelle seraient inutiles si nous ne les secondions. Oh, que les grandes leçons que nous avons reçues ne soient pas perdues par notre légèreté ou par nos vices. Que la régénération de l'État commence dans nos cœurs. Que tous les esprits, tous les sentiments se réunissent autour de ces doux noms de paix, d'humanité, de patrie. Et alors nous verrons s'accomplir pour nous ces promesses des prophètes, cieux entonnés des chants de triomphe. Terre, fais éclater ta joie. L'Éternel a consolé son peuple, il a eu pitié de ses enfants affligés. Voici un roi qui régnera selon la justice. Il sera comme un abri contre la tempête, comme des ruisseaux rafraîchissants dans une terre aride. La paix sera l'ouvrage de la justice, et la justice produira un repos et une confiance inébranlables. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne mettront plus des enfants au monde pour être la proie des alarmes. La miséricorde et la fidélité se rencontreront, la justice et la paix s'embrasseront, la vérité germera de la terre et la justice descendra des cieux. L'Éternel nous comblera de ses biens et la gloire habitera dans notre pays. Amen. Prière après le sermon. Grand Dieu, nous contemplons avec admiration et ravissement les dispensations de ta providence. Nous nous prosternons devant cette merveilleuse sagesse dont les voix ne sont pas nos voix, dont les pensées ne sont pas nos pensées. Nous recueillons dans nos cœurs, saisis et pénétrés, ce cri que tu as fait retentir encore une fois du haut des cieux. Paix sur la terre. La France, l'Europe, l'humanité entière te bénissent pour ces grands coups que tu as frappés. Ils y voient l'aurore d'une longue paix. Et à la place de ce foyer, d'où partaient sans cesse et de tous côtés des foudres destructeurs, elle voit s'élever un trône de paix qui répandra au près et au loin tous les bienfaits de la paix. Père universel du genre humain, réalise aussi ravissante espérance. Bénis sur ce trône ce roi que ta justice suprême, que les droits les plus sacrés, les vœux de tous les cœurs français y ont rappelé, et dont le retour nous semble être celui de la justice, de la morale, de l'humanité. Dirige-le par ton esprit. Affermis sa santé. Donne-lui la force et le pouvoir de faire tout le bien que ses lumières, sa sagesse, son patriotisme lui suggèrent. Et qu'après avoir gémi longtemps sur les malheurs de sa famille et de son pays, il voit, pendant un long règne, pour la France, comme pour lui et pour ceux qui lui sont chers, les pleurs effacés par les chants de réjouissance. Bénis ces princes qui entourent son trône et qui consacrent, comme lui, toutes leurs pensées au bonheur de la patrie. Père des orphelins, bénis cette princesse, auguste et touchant exemple des douleurs humaines, dont la présence renouvelle tant de regrets, nous apporte tant de consolation. Entoure-la de ta protection paternelle, que de nouveaux objets écartent peu à peu de son cœur de déchirants souvenirs et mêlent quelquefois le sourire de la joie aux pleurs qu'elle n'a pas cessé de répandre. Bénis tous ceux qui, dans leurs différentes fonctions, secondent les vues du roi et partagent ses soins, et donne-leur de recueillir, dans le succès de leurs travaux, et la reconnaissance des peuples, la plus douce récompense de leur généreux dévouement. Bénis tous les peuples de la terre, ces nations surtout qui, après avoir été éprouvées comme nous, se réjouissent aujourd'hui de la même délivrance. Bénis les souverains qui les gouvernent, et ceux en particulier que nous avons vus réunis dans cette capitale comme les représentants de l'Europe, pour asseoir sur des bases solides le repos des nations, que, sous leur sage administration, les sources de la félicité publique se rouvrent bientôt en tout lieu, que les arts et l'industrie se raniment, que la confiance renaisse, que les communications entre les peuples se rétablissent, que tous les hommes, tous les peuples se donnent la main pour travailler par un concert mutuel à consoler l'humanité des maux dont elle a gémi si longtemps. Que les mères et les épouses voient revenir auprès d'elles les objets de leur tendre sollicitude, et que celles qui n'ont plus que des larmes à verser sur eux trouvent leur consolation dans le bonheur commun et dans les nombreuses compensations que ta bonté sait toujours mêler aux peines que tu nous envoies. que tous les infortunés, ceux qui souffrent, ou par les conséquences de la guerre, ou par les maladies, les afflictions de toute espèce, reçoivent aussi quelque soulagement. Et toi-même, Seigneur, sois leur appui, leur consolateur et leur rémunérateur au dernier jour. Cependant, ô Dieu, nous ne nous dissimulons point que la cause des maux que nous avons souffert était, en partie, au-dedans de nous, dans les vices qui avaient provoqué ta justice, dans ce relâchement de tous les principes qui signala ces temps malheureux, et la révolution par laquelle tu sembles mettre un terme à ces maux serait insuffisante pour les guérir, si elle ne s'opérait aussi dans les cœurs. Quand tu fais de si grandes choses pour l'humanité, quand tu nous mets entre les mains tous les moyens d'être heureux, hélas, que seraient tous ces bienfaits si nous ne savions pas les mériter que de tristes témoignages de notre ingratitude qui ne serviraient qu'à aggraver nos torts et nous préparer, peut-être, de nouveaux châtiments. Inspire à tous les citoyens les vertus et les sentiments sur lesquels repose essentiellement l'ordre et le repos des États. Que tous les souvenirs s'effacent à l'idée de l'heureux avenir que tu offres à nos espérances. Que tous les intérêts se taisent devant l'intérêt général. Que les maisons, sanctuaires de l'union, des mœurs, de la félicité domestique, soient l'école des vertus et de la félicité publique. Et comme la religion est le principe le plus fécond, le garant le plus assuré de ses vertus publiques et privées, ô, pénètre tous les vrais amis de la patrie, du sentiment de ce qu'ils doivent faire pour établir de plus en plus sa sainte influence. Que les pères en jettent de bonne heure les premiers germes dans le cœur de leurs enfants, qu'ils les fassent fructifier par l'éducation, par les habitudes qui leur inspirent, en faisant de leur maison des écoles de piété, en leur donnant l'exemple du respect pour la religion et de l'assiduité dans les temples. Que les divers cultes et les ministres qui les professent, unis par le lien commun de la charité, travaillent par un saint accord à ce qui est le grand but de tous, le progrès de la vertu, et ne rivalisent que de zèle pour l'honneur de la religion et pour le bien de la patrie. Bénis en particulier notre culte, les églises qui le professent avec nous, celle qui se rassemble en ce lieu. Que cette Église, fondée par ta bonté paternelle, ouvrage et monument des progrès du vrai christianisme, subsiste et prospère sous la protection d'une autorité éclairée par les lumières et le zèle de ses pasteurs, qui implorent sur eux-mêmes les secours de ton esprit, qu'elle puisse toujours s'honorer des vertus de ses membres et que la pureté de nos mœurs atteste de celle de notre foi. Ô Dieu, que cette religion admirable de ton Fils règne sur les rois et sur le peuple pour le bonheur des uns et des autres. Que la vérité et la charité, ces amis des humains, habitent ensemble au milieu de nous, en sorte qu'après avoir vécu ici-bas comme des frères, nous parvenions ensemble un jour dans cette patrie céleste où règne la charité pure et la vérité sans nuage. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.